l'action et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Bonjour, bienvenue sur la chronique Le Bité, le couteau du Theta Lab, émission numéro, je sais plus, on va dire F. Voilà, ben, je suis en compagnie de Alex.
Bonjour.
On n'est que tous les deux, donc on va essayer de s'en sortir tant bien que mal. Donc cette fois-ci, j'oublie pas, je rappelle l'adresse du pad qui est en fait un traitement de texte en ligne collaboratif à l'adresse canalsud.thetalab.org. Donc vous pouvez y poser vos questions et on va y mettre toutes les infos complémentaires, les vidéos, tout ça dessus. Donc pour commencer une partie actualité, alors là on a quand même une info qui est assez grave quoi, une info énorme, breaking news. Alex, tu vas nous en parler parce que là je pense que l'heure est grave quoi.
Ok, c'est... Quel breaking... Ah oui, c'est, la breaking news, c'est que tous les cartes PIN, tous les numéros de PIN des cartes bancaires ont été diffusés sur Internet par les Anonymous.
Voilà, tous les codes PIN de toutes les cartes bleues au monde ont été diffusés. Et je pense que chacun a son code dedans, donc...
Il faut juste le retrouver, quoi.
Voilà, donc les numéros de 00 à 9999 ont été leakés sur Internet, quoi.
C'est ça.
Donc... Enfin ouais. Bref.
Le réveil a été dur. Hein.
Voilà, ouais. Ouais, puis on s'aperçoit que les gens ont des numéros 000 ou 1, 2, 3, 4. C'est complètement ouf, quoi. Donc après, tu voulais parler de quoi ?
Alors, en ce moment, c'est la campagne présidentielle aux États-Unis. Il y a deux candidats, dont Obama et Romney. Romney, un riche milliardaire américain qui ne veut pas diffuser ses rapports d'impôts au public. Donc normalement, je crois que quand ils sont élus, ils doivent le faire. Et là, comme il n'est pas élu, il n'a pas besoin de le faire. Et en gros, je crois qu'il y a une course à savoir qui c'est qui va pouvoir accéder à ces informations. Et il y a un groupe qui a annoncé qu'ils avaient piraté et rentré dans un bâtiment fédéral qui gère les impôts aux États-Unis et qui avait récupéré toutes ces données. Avant de les diffuser, ils ont annoncé qu'ils les vendaient en Bitcoin. Et donc, ils ont créé deux comptes Bitcoin. Un compte où il fallait verser $1 million sur chaque compte. Et le compte qui gagnait. Donc, il y avait un compte pour diffuser l'information et un compte pour ne pas diffuser l'information.
D'accord.
Donc, c'était une espèce de blackmail, de... comment on dit, d'arnaque.
Ouais, et on peut rappeler ce que c'est Bitcoin.
En Bitcoin, c'est un... C'est un système d'échange monétaire cryptographié et normalement anonyme.
Enfin, et qui est totalement libre et qui ne passe pas par des banques. Quoi.
Voilà, qui ne passe pas par des banques, qui passe de personne à personne avec des chaînes cryptographiques. Et
donc, à taux fixe, donc sans spéculation.
Avec spéculation. Hein.
Avec spéculation, ah d'accord.
Avec une énorme spéculation. Les premiers qui ont eu des bitcoins, on est passé. C'était combien le maximum ?
Aucune idée. Là, on est autour des $10 et ça fluctue entre. Au début de l'été, je crois qu'on était à $5 et là, à la fin de l'été, on était à $10. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? On peut créer ses propres bitcoins. Le but, c'est qu'on fait tourner un programme sur son ordinateur. Et c'est un peu comme SETI at Home, où on recherche les extraterrestres. Là, on recherche la prochaine chaîne cryptographique qui va générer 50 bitcoins. Donc, on peut faire tourner son ordinateur en permanence et générer des bitcoins.
D'accord.
Donc, plus il y a de monde sur le réseau, plus c'est dur de le générer. Et du coup, le but, c'est de créer 50 bitcoins, je crois, tous les quarts d'heure. Donc sur le réseau, tous les quarts d'heure, il y a 50 bitcoins en plus pour gérer l'inflation à ce niveau-là. Donc en revenant sur l'arnaque de Bitromney, il y a des gars qui ont enquêté un peu sur les chaînes de caractères des adresses bitcoin sur lesquelles il fallait envoyer de l'argent. Et dedans, il y avait des easter eggs avec des QR codes et des trucs qui envoyaient vers des liens et tout ça. Et donc,
alors les easter eggs,
Easter Egg, c'est des programmes cachés. Donc l'adresse Bitcoin sur lesquelles fallait envoyer de l'argent pour avoir les taxes de Mint Romney était en fait des QR codes qui envoyaient vers des images et qui disaient que c'était un peu une arnaque. Donc il y a quelqu'un qui a bien creusé dans tout le réseau Bitcoin et qui a réussi à avoir ces infos-là.
D'accord.
Donc, c'était assez bien vu comme arnaque. Mais
il y en a qui ont dû transpirer pas mal, ouais.
Ouais.
Continue, je t'en prie.
Oui. Donc, autre annonce, c'est sur Reddit. Donc, Reddit, c'est un gros réseau social d'échange de liens où les gens peuvent participer sous forme de forum en posant des questions, en se présentant, etc. Et ce mois-ci, il y avait la team Samurai CTF qui a gagné le CTF du DEFCON. Donc, le DEFCON, c'est un grand congrès de hackers qui a lieu aux États-Unis avec plusieurs milliers de personnes, je crois que c'est 20 000 personnes, tous les mois d'août chaque année. Donc là, c'était le 20e, je crois. C'est le 20e DEFCON. Et le CTF, c'est Capture the Flag. Donc, c'est un espèce de concours entre teams de hackers pour contrôler son propre serveur et pénétrer dans le serveur des équipes adverses.
D'accord.
Ça se passe sur plusieurs jours. Il faut dans l'équipe, il faut des gens qui défendent le système et qui attaquent des systèmes et d'autres gens qui attaquent le système en face. Et la team Samurai CTF faisait une interview sur Reddit. Donc les gens pouvaient venir leur poser des questions pour savoir comment ils s'étaient débrouillés pour gagner ce concours. Donc c'est un truc assez haut niveau. Le CTF à DEFCON, c'est des teams, des gens qui s'entraînent toute l'année pour ce genre d'épreuves. Et donc là, ils expliquaient comment leur team de 80 personnes, en général, c'est des teams beaucoup plus petites, là, ils avaient ouvert leur organisation pour que n'importe qui passait sur le festival puisse participer à leur team. Ils expliquaient un peu leur organisation, comment ils se retrouvaient dans la journée, comment ils organisaient leurs attaques et leurs défenses. Et voilà. Donc une interview assez intéressante. Et troisième article, un article de arstechnica.com, c'est un journal web technique assez intéressant qui expliquait comment les attaques de mots de passe avaient changé les 10 dernières années. Donc en partant des premiers crackers de mots de passe il y a 10 ans qui fonctionnaient juste avec un dictionnaire pour vérifier identifier les mots de passe qui pouvaient être craqués, aux dernières évolutions des Rainbow Table et des des utilisations de cartes graphiques pour craquer des grosses bases de données de mots de passe. Donc ce qu'on a vu les dernières années avec LinkedIn ou des gros sites qui d'un coup sont piratés avec plusieurs millions de comptes utilisateurs qui disparaissent sur Internet. Ou qui apparaissent justement sur Internet et avec des gens qui arrivent dessus et qui trouvent des méthodes assez optimisées pour craquer plusieurs milliards de combinaisons à la seconde.
Donc, d'accord. Parce que, par exemple, quand on veut craquer une base de données de mots de passe, il suffit de craquer le mot de passe qui permet d'accéder à cette combinaison ou il faut tous se les faire ?
En général, là, ce qui s'est passé les dernières années, c'est qu'il y a des grosses bases de données qui sont apparues. Genre, quand LinkedIn s'est fait avoir, il y a, je crois, plusieurs millions d'utilisateurs qui sont... Enfin, la base de données de plusieurs millions d'utilisateurs qui sont apparues sur le net. Donc, on a l'identifiant et le mot de passe qui a été crypté par le système LinkedIn. Et la suite, c'est de comparer, de créer son propre système de cryptage, essayer d'imaginer comment LinkedIn a essayé de crypter le mot de passe.
D'accord, ouais.
Et faire une comparaison entre le dictionnaire que c'est un dictionnaire où il y a marqué bonjour et password, essayer de crypter bonjour et password et essayer de retrouver comment si ça correspond à des mots de passe cryptés dans la base de données de LinkedIn.
Par comparaison comme ça ?
Par comparaison, oui. Donc c'est intéressant déjà quand tu peux faire 20 000 comparaisons à la seconde. Donc
ouais.
C'était juste bonjour et password, mais après il faut faire toutes les comparaisons avec les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux et tout ça. Et il y a des systèmes qui permettent depuis quelques années maintenant de monter à plusieurs milliards de comparaisons par seconde.
D'accord. Donc nos mots de passe ne sont pas à l'abri.
Et voilà comment les dernières années les mots de passe sont devenus de plus en plus faibles et les crackers de mots de passe sont devenus de plus en plus forts.
D'accord. les mots de passe sont devenus de plus en plus faibles, c'est-à-dire que les gens choisissent des mots de passe pas terribles.
Non, le système même.
Le système de protection.
Le système, l'existence même du mot de passe est assez oblique, on va dire, est assez
compromise.
Faible. Compromise.
D'accord.
Et puis les gens mettent toujours la même chose, 1, 2, 3, 4, voilà. God, password, password en majuscule, ouais. 4, 3, 2, 1, je crois que c'est ce qui se retrouve le plus.
Et plus on a de comptes, moins on a de mots de passe associés par compte. On ne peut pas tous retenir 64 caractères différents par compte qu'on a sur Internet, donc c'est assez difficile.
Ouais, et il ne faut pas oublier, le compte a bien protégé son compte mail, puisque avec le compte mail, ben, on arrive à avoir tout. Quoi.
Oui, bien sûr.
Moi, en lisant Ouni sur ouni.fr, qui est un excellent site de journalisme, je tombais sur un mouvement aux États-Unis. En fait, une mère de famille a créé un hackerspace qui s'appelle Hacker Spaceship Hacker Mom, qui en fait est dédié aux mères de famille. Et je trouvais l'initiative super, parce qu'en général, les groupes de femmes qui gardent des gamins, en général, leurs groupes sont focalisés sur les enfants, tout ça, machin. Et là, en fait, c'est plus une expression de la créativité et pas enfermer en fait, la femme sur juste son rôle de garde d'enfant. Donc, elles viennent dans cet espace, un hackerspace, comme le Theta Lab est un hackerspace, et elles vont pouvoir faire du bricolage, de la programmation, tout ça, tout en ayant une structure pour garder leur gamin. Quoi. Donc, super sympa. Faudrait que ça se développe aussi en France, quoi. Et après, autre info trouvée sur le site Ouni, qui est moins plus triste, on avait beaucoup parlé du logiciel Eagle de Amesis, filiale de Bull, qui en fait est un logiciel d'espionnage et qui en Libye avait aidé à l'arrestation d'opposants et leur torture. Et là en fait c'est un Anglais qui est naturalisé anglais et américain qui vit en Angleterre et qui est d'origine bahreïnie, donc le Bahreïn qui est un tout petit état à côté du Qatar et qui doit être assis sur une montagne de pétrole, a reçu un mail émanant de Al Jazeera lui parlant de torture de personnes au Bahreïn et suivi d'un fichier avec la liste des personnes torturées et lui demandant de vérifier ce fichier. Donc lui, il a un petit tiqué, il n'a pas vérifié le fichier, il en a reçu plein d'autres et d'autres Bahreïnis ont aussi reçu des mails avec des fichiers joints. Et ils ont envoyé leur mail à aux journalistes de Bloomberg qui eux ont analysé ces mails en profondeur et se rendu compte qu'en fait c'était des mails issus d'un logiciel espion qui s'appelle
FinSpin.
Ouais. Voilà, et que donc en fait on découvre derrière tout ça qu'il y a une société britannique qui a vendu un logiciel du style d'Eagle d'Amesis au Bahreïn pour elle aussi contrôler sa population.
Il y a quelques mois, Wikileaks sortait toute une compilation des logiciels espions.
Voilà, donc après, ils ont découvert en plus, il y a toute la documentation de ce logiciel, des vidéos explicatives, tout ça. Et bon, après, il faut savoir que le roi du Bahreïn, il est venu en France dire bonjour à Hollande. Donc ça, ils sont bien cachés de le dire. Donc bon, Hollande n'est pas mieux que Sarkozy qui avait laissé Kadhafi planter sa tente dans le jardin de l'Élysée. Donc voilà, ben on se rend compte que de partout, dans tous les pays arabes, ils utilisent une techno que nous, pays occidentaux, leur vendons. Et ça pose problème à personne.
Il me semble même que Amesis a été lavé de tout soupçon dans un procès récemment.
Ah ça y est, ça j'ai pas suivi.
Il me semble avoir lu ça dans le Canard il y a 2-3 semaines, à confirmer quoi.
Oui, parce qu'il y a une histoire qu'en fait il n'y a pas besoin d'avoir d'autorisation pour vendre un logiciel, alors que parce que c'est pas considéré comme une arme.
Ouais.
Mais bon, ça fait autant de dégâts. Oui, on parlait de Wikileaks. Donc il y a la... Comment elle s'appelle? Je vais la retrouver. l'avocate de Julian Assange, qui d'ailleurs est toujours dans son ambassade de l'Équateur, et il ne sait pas trop comment il va pouvoir être extradé en Équateur. Donc l'histoire de son avocate, Jennifer Robinson, elle était en Angleterre donc pour défendre Julian Assange, et elle est australienne. Donc en fait, elle a voulu repartir, prendre l'avion, et en fait, on lui a interdit de prendre l'avion parce qu'en fait, elle était sur la liste des personnes indésirables. Donc cette femme, c'est pas une terroriste, elle a rien fait de mal, elle est juste avocate. Donc ça veut dire qu'on lui a mis quand même sur une liste où dedans on va retrouver des pédophiles, des terroristes, des gens qui ont fait quelque chose de très grave. Donc c'est un peu un truc de dingue, et c'est que vu que l'avocate est sur cette liste, on peut se dire qu'il y a plein d'autres personnes. Des pro Wikileaks ou des gens, ou s'il faut des gens du Data Lab, je n'en sais rien, mais qui sont sur cette liste, quoi. C'est complètement le monde à l'envers. Et aussi, pour rebondir sur cette histoire d'avion, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le TSA, ce qui en fait c'est le service qui va faire, c'est un service privé qui va fouiller les bagages, faire passer les gens sur les portiques de sécurité. Et il y a un gars qui arrive avec un t-shirt se moquant justement du TSA, parce que là-bas ils sont assez, ils sont pas très très fut-fut, et il s'est retrouvé à être interdit d'avion parce que justement il avait ce t-shirt. On lui a demandé de le retirer, lui a dit bon, je le retire, il y a pas de problème, j'en mets un autre. Mais bon, comme le gars était un petit peu basané, ils ont dit ah ben là on sait pas trop, alors que le gars est américain, et il a été refoulé, quoi. Donc bon, c'est un peu prendre l'avion maintenant, et je sais pas, faudra peut-être venir à poil, ou j'en sais rien. Voilà. Après, tu avais d'autres infos, toi ?
Non, on va passer. Ouais.
Non, on passe la petite musique. Oui, d'ailleurs, oui. C'était quoi le générique ? C'était Star Trek. Et là, on va passer Gérard Palapra, une super chanson. Un homme a disparu dans le ciel, qui est une reprise de David Bowie, et ça sera pour ouvrir notre dossier où on va parler d'espace.
J'aperçois le vieux saule qui nous cachait la maison du bateleur. Dites à ma mère que je l'aime, mais j'ai peur. Seul jusqu'à vous.
Sur Canal Sud, on vient donc de s'écouter Gérard Palapra.
C'est du lourd. Hein.
C'est du lourd. Il y a beaucoup d'énergie dans cette chanson.
Là, je pense David Bowie a été très fier de cette reprise de Space Oddity. Ouais.
J'imagine. Et du coup, c'est une traduction littérale en plus des paroles.
Ouais, c'est à peu près bien franchouille, mais c'est de la bonne traduction. Donc oui, on va parler d'espace. On va parler un peu d'espace, un peu en vrac. De un peu de tout et de rien et de do it yourself spatial. Donc on va commencer déjà par le décès de Neil Armstrong.
Bien sûr.
Premier homme sur la Lune qui est mort en août.
En été,
ouais. Et je me suis un peu penché sur la biographie de Neil Armstrong. C'était quand même
un sacré personnage.
Un badass, quoi, comme on dit.
Ouais,
tu vois.
Ouais,
pour anecdote, il est parti avec Apollo 11 sur la Lune. C'était en quelle année ? En 69. Donc avant ça, déjà, il avait été pilote d'essai. Lui, il est pas de l'armée. Hein. Il était du domaine. Il était pas de l'armée. Et donc déjà, il avait fait plusieurs missions, dont une, il avait failli perdre la vie parce qu'il y avait eu un problème. Donc le gars, il part avec Apollo 11 sur la Lune avec Buzz Aldrin et Michael Collins. Donc il décide que lui c'est le commandant de Apollo 11 et que ça sera lui qui va sortir sur la Lune. Donc les gars sont envoyés dans l'espace, ils passent 4 jours avant d'arriver en orbite sur la Lune. Là ils partent sur, ils montent dans ce qu'on appelle le LEM, le module lunaire. Et là en fait ils commencent à descendre sur la Lune pour atterrir. Et là
à l'unir,
c'est vrai. Et sur Mars, on dit comment ?
Amérir, amorcir.
Marcir. Donc oui, et là, tout d'un coup, plein d'alarmes qui se déclenchent. Donc lui, il devait faire une manœuvre pour qu'il y ait un atterrissage automatique. Puis là, la NASA lui dit que c'est bon, les alarmes, c'est pas très grave et tout, mais trop tard pour déclencher cette manœuvre. Donc le gars, il lui reste 45 secondes de proper goal pour s'arrêter au milieu de cailloux parce que c'était pas le bon endroit. Le gars, hop, il arrive à atterrir manuellement et il lui restait, je crois, un truc comme 15 secondes de proper goal avant de plus rien avoir. Donc déjà, chapeau. Là, il commence à sortir, donc il dit la phrase mythique qui est « c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». D'ailleurs, sur cette phrase, il y a, en anglais, c'est « one step for a man, one leap for mankind ». Et en fait, quand on a entendu ça à la radio, il aurait oublié de dire « a man », il aurait dû juste dire « man », et comme on a une double signification de homme qui veut dire lui-même ou l'humanité. Il s'en est excusé après, ils ont fait des analyses pour savoir s'il avait bien dit homme en parlant de lui ou l'humanité.
Il y a un délai de transmission aussi.
Mais après ils ont fait vachement d'analyses, ils ont vu qu'il avait dit. Et lui, il a dit, je l'ai peut-être oublié sur le coup de l'émotion. Donc à chaque fois qu'on voit la citation quelque part, le A est entre crochets pour dire il voulait le dire mais il a peut-être pas dit quoi. Donc ils sont sortis pas longtemps quoi. Ils ont fait 250 mètres, ils ont posé un drapeau qui a fait polémique parce qu'on a toujours dit ils sont peut-être pas forcément allés sur la Lune, et comme sur la Lune il n'y a pas de vent solaire, sur toutes les photos on voit le drapeau qui flotte. Et on a dit non, ils ont pris ça en studio, tout ça. Et en fait, le drapeau, on dirait qu'il y a du vent parce qu'en fait, il a été plié de telle sorte que quand ils l'ont déplié, comme il n'y a pas de, de pesanteur, il serait resté en, en fait un peu chiffonné et quoi, on dirait que c'est du vent. Enfin bref.
Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de satellites en ce moment qui tournent autour de la Lune pour faire des repérages miniers.
Pour trouver le drapeau.
Minéraux. Et il y a des photos, oui, du, de l'ombre du drapeau et des sites. De,
ouais, parce que après, oui, ils sont allés 4 ou 5 fois sur la Lune. Il y a eu Apollo, je ne sais plus combien, et jusqu'à ce que ça explose.
Jusqu'à 17, je crois.
Et alors là, vous pouvez peut-être répondre. C'est vrai que les traces de pas, puisque c'est quand même poussiéreux, c'est, elles restent en fait.
Bah, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'érosion, ouais, je pense que ça devrait rester.
D'accord,
Donc, hop, il décide de rentrer, et là, Neil Armstrong, je ne sais plus comment il s'appelle, Buzz Aldrin, en fait, ils arrachent un bouton qui permettait de faire redémarrer la navette pour repartir, quoi. Donc, grosse angoisse, mais bon, Neil Armstrong, lui, hop, pas de problème, il prend un bic, hop, il appuie sur le bouton, quoi. Donc, le gars a posé manuellement une navette spatiale et a fait repartir une navette spatiale avec un bic, quoi. C'est quand même énorme, quoi. Et tout de suite après ça, bon, ben, il a, le gars a un super héros, mais bon, il n'a pas trop pris la grosse tête. Et en fait, tout de suite après, il s'est retiré de la NASA. Il a juste décidé d'être prof et dans une petite université parce qu'il ne voulait pas être Harvard, tout ça, machin bidule. Voilà, donc pour Neil Armstrong. Donc après, on avait quoi sur l'espace récemment? Il y avait Curiosity. Et ça, Alex,
Curiosity,
c'est
vous
toi
en
le
pro. Avez possiblement entendu parler cet été. C'est un robot de la NASA qui fait la taille d'une petite voiture type coccinelle et qui a atterri sur Mars début août. Donc avec les 7 minutes de terreur où l'atterrissage d'un robot de cette taille ne peut plus se faire comme les robots que vous avez vus déjà il y a quelques années sur Mars qui atterrissaient avec des gros airbags. Donc c'était des ballons qui étaient gonflés sur le côté de la nacelle d'atterrissage et qui le robot du coup rebondissait sur la planète jusqu'à ce qu'il ne bouge plus et que les panneaux puissent s'ouvrir. Et ce robot, la taille d'une voiture, ne pouvait pas utiliser cette méthode-là du fait de son poids.
Alors parce que par contre, il y a de la pesanteur sur Mars.
Il y a de la pesanteur sur Mars, oui. Je ne sais pas quel niveau.
Mais c'est plus lourd ou moins lourd?
Plus proche du Soleil.
Je dirais presque pareil.
C'est
en fonction de la masse de la planète.
Et de l'atmosphère, et je ne sais pas. Bref, et du coup, donc pour la Marsissage, bon, l'atterrissage sur Mars, ce robot a utilisé une grue. Donc le principe c'était que la navette rentre dans l'atmosphère comme une navette sur Terre, mais un peu plus longtemps, déploie un parachute comme les retours des missions Apollo, quand les hommes de la Lune sont rentrés sur Terre. Et après avoir déployé le parachute, le robot est toujours à l'intérieur de la navette. Donc le bouclier thermique se retire. Donc, le bouclier thermique c'est comme une espèce de casserole qui est sur un côté pour éviter que ça chauffe à l'intérieur quand ça se frotte à l'atmosphère. Donc cette partie-là s'est retirée. Et après, le robot qui était toujours à l'intérieur s'est décroché de cette navette-là. Et avec des rétrofusées, s'est mis à une vingtaine de mètres du sol. Et après, il y avait une grue, donc un filin qui tenait le robot, qui a fait descendre le robot jusqu'au sol. Et une fois que le robot était au sol, le filin s'est décroché, la grue qui était au-dessus, qui était toujours avec des rétrofusées, s'est écartée de quelques centaines de mètres du site. Et voilà, le robot avait atterri de cette façon-là. Et il y avait, comme il n'y avait aucun contrôle au niveau terrien, je crois qu'il y avait 14 minutes de délai de télécommunication, donc c'était impossible de contrôler ce qui se passait. On pouvait juste observer et essayer de voir si ça se passait bien dans les temps.
Tout était programmé à l'avance, voilà, il fallait que ça marche ou sinon c'était voulu, quoi.
Oui, juste là, Mars, ça représente 11% de la masse terrestre et sa pesanteur c'est égal à 38% de la Terre, donc un homme de 75 kg pèse 28,5 kg à la surface.
D'accord.
Donc voilà. Oui, et au fait, il est allé pourquoi sur Mars, Curiosity?
Donc, c'est un robot d'exploration, je crois, minérale, géologique.
Vous ne voulez pas voir s'il y avait de la vie ou de l'eau ou un truc comme ça?
Ouais, ils partent pas sur la vie, ils partent sur l'eau plutôt.
D'accord.
Et donc, c'est un robot pareil, c'est pas un robot qui a des panneaux solaires, ils sont partis sur une pile atomique. Donc, c'est une pile à dégradation, je crois que c'est un truc radioactif et en se dégradant, ça produit de la chaleur et de l'énergie. Et normalement, c'est prévu pour durer 14 ans. Donc là, la mission du robot, elle est de 2 ans. Donc c'est comme les anciens robots qui avaient des missions de 3 mois et qui finalement, depuis 9 ans, sont toujours sur la planète en train de tourner.
Ah oui.
Un des deux robots. Et là, donc, il a une mission de 2 ans. Il a commencé à rouler la semaine dernière, je crois. Donc il a fait un mois de test pour vérifier que tous les instruments étaient au point. Les caméras, les différents instruments, les roues, que ça tourne bien, que ça avance. Il n'y a pas eu de problème, je crois qu'il y a juste un capteur de vent qui n'a pas fonctionné, capteur éolien. Et voilà, donc il y a plein de belles photos qui apparaissent sur un site qui s'appelle curiositywatch.com, sur Reddit aussi, si vous allez sur Reddit /r/space, je mettrai les liens sur canalsud.etala.org. Et donc il y a des photos tous les jours en très haute définition, donc c'est quand même un robot qui a du retour en vidéo HD. Je crois qu'ils sont limités à 30 mégaoctets par jour de bande passante.
D'accord.
Ça passe par un réseau satellitaire et c'est assez limité, mais bon, ils arrivent à sélectionner les vidéos à distance. Et il y avait un truc assez intéressant aussi le mois dernier, c'est que une fois que le robot a atterri, ils ont pu changer tout le logiciel qui opère sur le robot. Donc à distance, pour retirer toute la période, toute la séquence d'atterrissage. Donc ils n'avaient plus besoin de la séquence d'atterrissage sur le robot. Ils ont pu faire de l'espace pour mettre d'autres logiciels qu'ils avaient développés pendant les... je crois que ça a duré 8 mois, je crois, la traversée Terre-Mars.
Une mise à jour des milliers de kilomètres.
Voilà.
Ouais, en fait, ils passent par une sonde spatiale qui fait un relais avant d'envoyer...
Donc il y a un réseau internet interplanétaire maintenant, avec les différentes sondes spatiales qui sont envoyées depuis des années entre toutes les planètes. Donc c'est un réseau TCP/IP quasiment classique, je crois, avec juste une attente, enfin avec des délais différents de ce qu'on peut avoir sur Terre.
Ouais, le ping doit pas être très bon.
Et est-ce qu'il enregistre ce robot?
Est-ce qu'il enregistre
le son?
Non, le son, il n'enregistre pas. Il y avait une histoire, pourquoi il n'enregistrait pas le son. Je crois qu'il y a eu deux sondes martiennes qui sont allées, qui enregistraient le son. Il n'y a aucune des deux qui a marché. Et là, comme ils sont un peu limites sur l'espace, même si c'est à la taille d'une grosse voiture, ils sont limites sur ce qu'ils peuvent embarquer.
D'accord.
Ils n'ont pas embarqué de système sonore, parce que je crois que c'était lié au but de la mission. C'était comme une mission géologique, il n'y avait pas besoin de gérer le son. Quand il y a des super instruments, il y a ChemCam qui vient de Toulouse, je ne sais plus quel laboratoire, et c'est un rayon laser qui
détruit les roches,
qui va griller une roche à distance, et il y a un capteur qui va pouvoir étudier la vapeur émise par la roche en fusion.
Ouais, d'accord.
Donc ça a été testé, ça marche très bien comme appareil. Il y avait un compte Twitter d'ailleurs du premier rocher qui s'est fait griller. Le rocher qui flippait un petit peu d'avoir vu un gros robot atterrir juste à côté de lui, qui commençait à se sentir visé par. Donc à la fin, il expliquait que ça s'était très bien passé, ça lui avait même pas fait mal. Et on voyait des photos du premier point de fusion, donc c'est vraiment minuscule.
Ok. Oui, après. Alors je parlais d'ascenseur spatial. Donc l'ascenseur spatial, ça a été une idée qui a été créée par Arthur C. Clarke, qui était un romancier de science-fiction dans les années 70. Et en fait, le but d'un ascenseur spatial qui a été maintenant, qui est pris vraiment au sérieux, c'est en fait, au lieu de prendre des fusées, on est un ascenseur qui monte jusqu'à une station qui soit en orbite dans l'espace. Donc comment ça marcherait? En fait, il faut imaginer une grande fronde, en fait. Ce serait qu'on ait un fil qui part de la Terre et qui va à...
Gigantesque élastique.
Oui, mais c'est ça. Hein. Qui va et qui irait à 72 000 km de hauteur, là où en fait... comment
ça s'appelle
le voilà, où en fait comment s'appelle la force centrifuge de la Terre et sa force de gravitation s'annule en fait.
D'accord.
Et donc tout ce qui est satellite, tout ça, ben ils restent là, quoi. Ils sont ni attirés ni repoussés. Donc en fait le but du jeu, ça serait déjà de trouver un câble qui soit susceptible de supporter un ascenseur. Donc on a tout ce la technologie des nanotubes. Donc en fait le but du jeu, c'est qu'on envoie une fusée dans l'espace, elle va prendre un tout petit fil de nanotubes qu'elle va projeter sur Terre. Ce petit fil va permettre de ramener à chaque fois des câbles et des câbles et des câbles jusqu'à avoir un gros câble bien solide, et sur ce câble, on aurait un ascenseur qui grimperait. Voilà, donc toute l'inconvénient après, ça serait de gérer le câble d'une fois qu'il soit assez solide, puis de gérer aussi l'inclinaison de la terre, puisqu'en été ou en hiver la terre s'incline sur son axe, et aussi à gérer l'attraction lunaire qui interviendrait là-dedans, quoi. Mais si on arrivait à le faire, quoi, on pourrait tous aller dans l'espace, hop, on prendrait l'ascenseur, ça irait vite. Moi, je crois que ça mettrait plusieurs jours avant d'arriver dans l'espace, mais ça serait bien sympa.
Et beaucoup moins cher que le système actuel.
Oui, oui, et moins polluant. Moins polluant aussi.
Ah oui, puis ça voudrait dire la conquête spatiale pourrait se lancer, on pourrait construire des choses dans l'espace, tout ça. Enfin bref. Et donc la NASA, elle a lancé un concours pour justement concevoir ce nanotube, et elle a offert un prix de $1 million, donc personne n'y arrivait pour l'instant, mais on voit certaines personnes qui sont dans le domaine scientifique qui vont par exemple passer par Kickstarter. Ce qu'on appelle Kickstarter, c'est une plateforme de crowdfunding, c'est-à-dire du financement par tout un chacun. Nous, on peut participer pour arriver déjà à faire un ascenseur spatial, mais qui se limiterait à juste à 2 km de hauteur avec des ballons météo.
D'accord, un essai, quoi.
Hein ? Ouais, faire un essai d'un petit filin en nanotube pour voir la solidité, voir si ça pourrait fonctionner.
Ok, il y a déjà eu des essais pour construire un peu les nacelles et voir comment ça monte. Donc on peut le faire juste sur le bord d'un bâtiment en mettant un filin et essayer de voir quel type de robot va pouvoir monter le long du filin le plus rapidement possible avec quelques contraintes techniques sur le poids qu'on peut mettre en charge utile sur le robot. Donc le Kickstarter, là, la personne qui a lancé le Kickstarter a demandé $8000 pour... en fait, c'était plus au début pour faire une étude et continuer. Il avait monté une team pour monter ce genre de robot, et c'était pour continuer l'étude dans sa team d'expérimentation. Aujourd'hui, il lui reste 22 heures pour récolter de l'argent. Il y a 3000 personnes qui ont donné de l'argent. Il est arrivé à $91000.
Oui.
Et le but donc de sa team maintenant, c'est en passant de $8000 à $90000, il va pouvoir lancer plus d'expérimentations, et il va aussi faire des études de faisabilité d'ascenseur spatial lunaire. Donc d'après lui, il serait très faisable avec les technologies actuelles de construire un ascenseur spatial sur la Lune plutôt que sur la Terre, et donc de se servir de cet ascenseur spatial pour faire des études justement sur les technologies à améliorer, parce que sur la Terre, je crois qu'il y a les problèmes atmosphériques, il y a les problèmes gravité, que sur la Lune il y a moins, ou qui pourraient permettre de construire un ascenseur mais sans passer par toute l'étape où c'est super dur.
Ouais, et puis il y a tout ce qui est déchets spatiaux qui pourraient rentrer en contact avec le câble. En fait, c'est tout ça pour dire que en fait, maintenant, la conquête spatiale est plus limitée à des grosses agences gouvernementales comme la NASA. Maintenant, on a déjà des entreprises privées qui se sont lancées dedans. Il y a Virgin Galactic qui se sont lancées, eux, dans plus le tourisme spatial, donc aller dans l'espace 5 minutes pour s'amuser. Il y a SpaceX qui, eux, est une vraie société américaine et qui, en fait, propose des lanceurs à la NASA pour remplacer les navettes spatiales qu'ils n'utilisent plus. Donc, ils ont déjà fait un lancement qui a été réussi. Mais après, en do-it-yourself, on a des gens complètement barrés qui aussi font ça de leur côté. Donc, les plus sérieux, c'est Copenhagen Suborbital. Eux, leur leitmotiv, c'est envoyer quelqu'un dans l'espace et démontrer que ça peut pas forcément coûter très cher. Donc, il y a un ancien de la NASA qui travaille dessus. C'est tout à fait sérieux. Donc, ils ont déjà fait des lancements. Ils avaient prévu d'abord de faire une fusée avec une personne debout et avec un dôme en verre pour pouvoir observer l'espace. Mais dans la position debout, il y a tellement de G au décollage qu'en position debout, c'est pas possible. Donc eux, ils sont repartis sur une position un peu comme toutes les navettes, à moitié couchées. Et bah, ils sont au Danemark et de temps en temps, au milieu de l'Atlantique Nord, ils font des décollages pour tester les parachutes, les atterrissages, leurs moteurs, tout ça.
Ils sont financés comment ?
Bah, je crois que c'est par des fonds privés. Hein. Mm. Ouais, ouais.
D'accord.
Et ensuite, au niveau Hackerspace, il y a aussi un gros mouvement qui s'appelle Hackerspace.
Global Space Program.
Ouais. Ouais. Global Space Program, qui lui, en fait, c'est plus dans l'idée de lancer des satellites de communication dans l'espace, qui seraient privés, et d'avoir plein de relais sur Terre pour, en fait, quoi qu'il arrive, on puisse toujours avoir un réseau indépendant qui soit toujours fonctionnel, quoi. Donc, se passer de tout, tout ce qui est backbone, fournisseur d'accès, tout ça.
J'ai juste une petite question sur l'ascenseur spatial. Ils ont des pronostics sur la date où ça pourrait être
ça doit 5 être
ans, 10 ans, 20
ça
ans.
Doit être indiqué sur le Kickstarter. Il y a, donc, vous retrouverez le lien sur canalsud.tetalab.org. Et je crois qu'il parle d'une dizaine d'années. Ouais. Donc, au bout de. Sur ce genre de projet, si c'est pas faisable dans les 10 ans, c'est que
c'est pas faisable.
C'est pas, oui, c'est un projet. À très long terme,
c'est plusieurs choses. Il faut arriver à trouver le matériau, tout ça, quoi.
Donc, par exemple, pour la Lune, ils ont mis moins de 10 ans à y arriver. Donc, c'était le but d'y arriver en 10 ans.
Et, sinon, ils auraient, ça aurait été reporté.
Quand ils parlent des programmes spatiaux en 2030, en 2040, 2050, c'est un peu du pipeau. C'est pour lever des fonds et dire que peut-être un jour on le fera. Mais s'ils ne le font pas dans les 10 prochaines années, c'est qu'ils n'ont pas vraiment besoin de le faire ou envie. Enfin, je sais pas, c'est très long terme et très peu probable que ça arrive.
D'accord.
Ensuite, oui, il y a aussi Google qui a lancé un grand prix avec 30 millions de dollars à la clé. Et en fait, le prix sera attribué à la première personne qui fera un robot qui atterrira sur la Lune et qui arrivera à faire 500 mètres de distance et renvoyer des images sur la Terre.
En HD, avec des bonus s'ils filment un site d'atterrissage lunaire, avec un bonus s'ils arrivent à passer la nuit, avec un bonus, enfin voilà, avec plein de bonus.
Et donc, du coup, y a plein d'équipes partout dans le monde, il y en a aussi également deux en France qui se lancent sur ce projet, quoi. Et enfin, un dernier projet, il y a la NASA qui, elle, propose le projet CubeSat. C'est en fait proposer à tout un chacun d'avoir un cube de 10 cm de côté. Où elle peut mettre ce qu'elle veut dedans, en fait. Donc, on a plein de montages qui sont faits à partir de téléphones portables, puisque bon, il y a beaucoup de puissance et de la miniaturisation à partir d'Arduino pour faire n'importe quelle expérimentation scientifique. Donc, en fait, ils vont, au lieu de lancer un satellite, ils vont lancer, je sais pas, il doit y avoir une centaine de ces petits cubes à la place d'un satellite. Et ça s'est mis en orbite.
Il y avait un projet cet été d'Arduino Sat sur Kickstarter où on pouvait louer un Arduino qui serait lancé dans l'espace. Enfin, bon, avec des petites fusées qui coûtent 5 000 $, je crois. Et 5 000 $ des lancements à 5 000 $, oui, c'est possible. Non ?
Ouais, enfin, c'est...
Oui, c'est des mini-fusées.
C'est 5 000 $, mais c'est peanuts pour envoyer quelque chose dans l'espace, quoi. Ouais. Parce que pour l'instant, les gens ont juste fait des ballons météo et ont attaché, grosso modo, un appareil photo et on s'en allait à la limite, à la limite, prendre des photos, quoi. Et ouais, on va faire vite parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc bah après, en fait, le monde entier se tire la bourre au niveau de l'espace. Donc il y a les Chinois qui sont bien partis, il y a les Iraniens aussi. Alors eux, on ne sait pas trop si c'est pour faire des fusées pour aller bombarder les autres ou si c'est réellement pour aller dans l'espace. Il y a le Nigeria qui a déjà mis un satellite en orbite en 2003. Et petite vidéo rigolote, il y a le Congo aussi qui a lancé sa première fusée Troposphère 5. Alors eux, c'est totalement c'est à l'africaine, quoi. Donc ils sont, c'est dans un champ, une toute petite fusée, la fusée explose en 1000 morceaux. Il y a le premier ministre qui regarde le lancement, qui doit être à peu près à 10 mètres de distance sur une chaise de jardin. Ouais, ça c'est fou, mais ils sont super motivés, ils étaient contents d'eux, donc ouais, c'est pas mal, c'est bien. Et donc on va finir par l'agenda. Donc
l'agenda,
samedi.
Il y a samedi, soirée code, c'est une soirée d'upstep au bikini avec des morceaux d'installation du Theta Lab dedans. Et la semaine prochaine, il y a le Festival international du film groenlandais à Toulouse, donc avec une animation à la médiathèque et avec des Minitel, je crois que c'est toute la semaine. Et le vendredi soir, une soirée à Mixart Miris, donc vendredi la semaine prochaine, avec pareil, une installation Minitel, un cybercafé Minitel, je crois. Et ce soir, le Theta Lab, à partir de 21h, à Mixart Miris, de rue du Ferdinand Lassalle, où vous pouvez nous retrouver et discuter des sujets techniques et alternatifs dont vous voulez parler.
Voilà.
Très bien.
Et bien, à dans 3 semaines.
À dans 3 semaines.
À dans 3 semaines, merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de refermer ce magazine.